Chers amis à l'écoute, nous continuons notre série concernant Jésus-Christ, la lumière, jusqu'au retour de Jésus-Christ, le Messie. Nous sommes à l'étude numéro 14. Et là, nous allons voir le but de la création des anges et leurs différents ministères. Quoique les anges soient très actifs dans le combat, là n'est pas le but originel de leur création, car Dieu les créa pour être des compagnons dans un acte d'amour transmettant la vie, car la vie doit toujours procréer. Ils furent donc créés pour adorer le Seigneur et pour demeurer pour lui une éternelle source de joie. Les anges sont des êtres qui aiment, qui ne sont pas faits pour se battre. Mais, hélas, à cause de la chute, ils se sont trouvés obligés de combattre, en premier lieu pour défendre le trône de Dieu, puis afin de protéger sa création, la terre et l'homme créé à l'image de Dieu. Premièrement, les anges furent créés pour adorer. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, leur vie entière n'est qu'une louange pour Dieu. Le merveilleux roi, on peut dire aussi prophète, David, le psalmiste, a découvert ce secret et il le partage avec nous. Dans le psaume 103, verset 20, il dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, puissants en force, qui exécutent sa parole, écoutant la voix de sa parole. » Et dans le psaume 148, verset 2, il dit « Louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous toutes, ses armées. » L'apôtre Jean, celui qui révèle, il a vu lui aussi les anges adorant au ciel. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 5, versets 11 et 12, ainsi qu'au chapitre 7, à nouveau versets 11 et 12. Et je vis et j'entendis une voix de beaucoup d'anges à l'entour du trône et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et l'honneur et gloire et bénédiction. » Et tous les anges se tenaient à l'entour du trône et des anciens et des quatre animaux, et ils tombèrent sur leur face devant le trône, et ils rendirent hommage à Dieu, disant « Amen ». La bénédiction et la gloire et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Voici donc comment les anges adorent le Seigneur Dieu. Peut-être serait-il bon que nous apprenions d'eux. Ils peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Les anges auraient beaucoup à enseigner à nous autres humains sur l'amour, sur l'humilité et surtout sur la pureté. Deuxièmement, les anges sont des gardiens tels que les chérubins. Les anges sont donc les gardiens du ciel. La première allusion que la Sainte Bible en fait se trouve dans la Genèse, chapitre 3, verset 24, où Dieu chassa Adam et Ève hors du jardin d'Éden, et pour les empêcher d'y revenir, il plaça à l'est du jardin des chérubins et une épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Certains spécialistes de la Bible pensent que les chérubins sont des anges du rang inférieur à celui des séraphins. Des chérubins sculptés en bois et recouverts d'or étaient placés au-dessus de l'arche de l'Alliance, aussi bien dans le tabernacle au désert. Notez Exode, chapitre 25, verset 22, et dans le livre des Nombres, chapitre 7, verset 89, ainsi que dans le temple de Salomon, là notez 1 roi, chapitre 6, verset 29 et le verset 32, ainsi que le chapitre 7, verset 36. Ceux qui se trouvaient dans le temple de Salomon devaient être magnifiques. L'envergure était d'environ 5 mètres entre le bout d'une aile de chérubin jusqu'à l'autre. Le souverain sacrificateur seul avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint. Ainsi, des générations entières d'Israélites ne virent jamais cette splendeur. Les chérubins, tels que les décrit Ézéchiel et ceux du temple d'Ézéchiel, chapitre 41, verset 18 à 20, ainsi que le verset 25, qui n'a pas encore été construit, ressemble plutôt aux quatre êtres vivants de l'Apocalypse. Comparé également Apocalypse chapitre 4 verset 6 à 8 et Ézéchiel chapitre 1 verset 5 et donc vous pouvez lire tout le chapitre jusqu'au chapitre 2 verset 1. Dans les deux cas, l'on peut voir les quatre mêmes visages d'un homme, tels que un bœuf, un veau, d'un lion et d'un aigle. Ceci représente les quatre évangiles qui montrent la vie de Jésus sous quatre aspects différents, ça vous le savez très bien. Voyons ce que disent ces quatre apôtres. Matthieu montre Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda, le roi d'Israël. Marc, l'apôtre Marc, le dépeint comme étant le serviteur. Le bœuf ou le veau, c'était la bête de somme du fermier israélite. L'apôtre Luc montre Jésus comme étant l'homme. Son humanité est merveilleusement révélée au travers de Saint Luc. Nous avons l'apôtre Jean qui dépeint Jésus comme étant l'aigle, s'élevant dans les hauteurs célestes comme fils de Dieu. Donc les chérubins et les séraphins ont les mêmes attributs que notre Seigneur et ces attributs devraient exister dans la vie de chaque enfant de Dieu. Si nous devons ressembler à Jésus-Christ, nous devrions pouvoir régner avec lui le lion, servir avec lui le bœuf ou le veau, marcher sur les routes poussiéreuses de la vie avec lui l'homme, et de nous élever dans les cieux pour être assis dans les lieux célestes avec lui, l'aigle. Si tous les anges sont les gardiens du ciel, il semblerait que les chérubins soient appelés à cela encore plus que tous les autres. Premièrement, ils surveillent l'arbre de vie. Nous les voyons avec leur épée de feu garder l'arbre de vie. Leur responsabilité est d'empêcher l'homme d'accéder au secret, le protégeant ainsi du danger de vivre pour toujours dans son péché. Vous avez compris, car maintenant, il a hérité le péché. Il est donc possible qu'ils aient autorité pour couper le fil argenté de la vie et la responsabilité d'introduire les âmes dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il protégeait l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Exode, chapitre 25, versets 18 à 22, et chapitre 37, versets 7 à 9. Lorsque Moïse a eu la mission de placer les chérubins au-dessus du propitiatoire, ce fut une image du ministère réel de cette catégorie d'anges. Ils étaient les gardiens de la Shekinah de gloire, non seulement dans le lieu très saint, mais aussi dans les lieux célestes, le précieux trésor dans le lieu très haut était tout simplement la gloire de Dieu. C'est la clé de la vie, celle de la vie éternelle. La condamnation à mort s'abattait sur l'homme parce que, en commettant le péché, il a perdu la gloire de Dieu. Car tous ont péché, est-il dit, et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Là aussi, nous voyons les chérubins protégeant la gloire de Dieu, cette gloire qui est le remède contre la mort. Troisièmement, les chérubins montent la garde auprès du trône de Dieu dans le ciel, là où sont sa présence directe et le siège de sa puissance. Le visible n'est qu'une image du céleste. Le psaume 80, verset 1, nous dit « Berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins, fais luire ta splendeur. » Et nous avons le psaume 99, verset 1. Il est dit « L'Éternel règne, que les peuples tremblent. Il est assis entre les chérubins, que la terre s'émeuve. » Saint Jean a vu quatre êtres vivants. Et devant le trône, dit-il, comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône et alentour du trône, quatre animaux pleins de yeux, devant et derrière. Et le premier animal est semblable à un lion, et le second animal semblable à un veau, et le troisième animal à la face comme d'un homme. Et le quatrième animal est semblable à un aigle volant. Apocalypse, chapitre 4, versets 6 et 7. Saint Jean a vu réellement planer au-dessus du trône ces quatre anges qui, dans le contenu du temple, furent représentés typologiquement. Il les voyait servant comme gardiens du trône. Et les quatre animaux, chacun d'eux ayant six ailes, sont tout autour et au-dedans pleins de yeux. Donc ils ont des yeux partout. Et ils ne cessent de dire, jour et nuit, « Saint, 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 Seigneur Dieu, Tout-Puissant est celui qui était et qui est et qui vient. » Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Lorsque ces anges gardiens ont donné gloire, honneur et louange à celui qui est assis sur le trône, alors le ciel tout entier a été conduit à l'adorer et à jeter leur couronne à ses pieds. Quatrièmement, les chérubins sont les gardiens de Jérusalem et du gouvernement d'Israël. Ézéchiel, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 22. Dans Ézéchiel, chapitre 10, vous pouvez lire un remarquable compte rendu de leur activité concernant la ville de Jérusalem et le gouvernement de Juda. Ézéchiel voit au-delà du trône d'Israël. Il voit le véritable trône de Dieu d'où serait venu le gouvernement de Jérusalem si celle-ci lui était demeurée fidèle. Il entend les chérubins qui se trouvent au-dessus d'un trône brillant, tel un saphir, s'adressant ainsi à un homme vêtu de lin. « Viens entre les roues, au-dessous du chérubin, et remplis le creux de tes mains de charbon de feu pris d'entre les chérubins, et répands-les sur la ville. » Ézéchiel, chapitre 10, verset 2. Et le chérubin étendit sa main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins, et il en prit et le mit dans le creux des mains de l'homme vêtu de lin, et il le prit et sortit. Ézéchiel, chapitre 10, verset 7. Tout de suite après cela, la gloire de Dieu quitte le temple et la ville de Jérusalem se trouve privée de la protection divine. En conséquence, l'armée de Nebuchadnezzar à toute liberté pour la détruire, ce qu'elle fait d'ailleurs. Ainsi, chers amis, nous voyons que les chérubins sont les protecteurs des trônes, des gouvernements et des puissances soumises à Dieu. Cela inclut les grandes institutions religieuses telles que le judaïsme et le christianisme. Mais lorsque le péché, ah, ce péché affreux, fait reculer la gloire de Dieu, les chérubins même déposent les charbons ardents de la colère de Dieu dans la main de l'homme vêtu de lin qui détruira les coupables en répandant sur eux le feu divin. Quelle chose terrible lorsque les gardes du corps d'un dirigeant le mettent à mort eux-mêmes. Si à cause de notre péché, Dieu ne peut plus protéger notre nation, alors ces mêmes anges, ces anges protecteurs, répandront sur nous la colère de Dieu. Souvenez-vous toujours que celui qui est le gardien détient le droit et la responsabilité de corriger l'enfant entêté et rebelle. Et cinquièmement, la grande tribulation, notez Apocalypse chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 5, avec ses jugements terribles, elle commencera dès que l'ange prendra l'ascensoir, le remplira de feu de l'autel céleste et le jettera sur la terre. Beaucoup croient que la colère de Dieu, répandue sous forme d'orages, d'éclairs et de séismes terribles, provoquant une grande destruction, déclenchera aussi le grand réveil final et une grande moisson d'âmes. Nous savons en toute certitude qu'il y aura deux grandes moissons simultanées. L'une des âmes destinées au royaume de Dieu et l'autre de celles destinées à l'enfer. Joël chapitre 3 verset 9 à 15 et le verset 18. ainsi que Apocalypse chapitre 14, verset 14 jusqu'au verset 20. Nous avons maintenant les séraphins. L'ordre angélique des séraphins est mentionné par Ésaïe dans son chapitre 6, verset 2 et le verset 6. Vers les années 640 avant Jésus-Christ, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. De deux, ils se couvraient la face, et de deux, ils se couvraient les pieds, et de deux, ils volaient. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris au-dessus de l'autel avec des pincettes. Nous voyons là que ces mêmes glorieuses créatures se tenaient au-dessus du trône de Dieu comme le faisaient les chérubins et comme eux, ils avaient le pouvoir et l'autorité de toucher les charbons ardents de l'autel et de les utiliser selon la volonté de Dieu. En cette occasion, le feu de l'autel ne détruisit pas Ésaïe, mais détruisit seulement son péché et son impureté, afin qu'il devienne un vase pur qui est capable de prononcer un message pur. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont besoin d'être purifiés par les charbons de l'autel afin de pouvoir de redevenir, en quelque sorte, prophètes de Dieu pour les nations. Ils sont trop nombreux ceux qui répondent à l'appel avant même qu'une œuvre de sanctification ait été faite dans leur vie. C'était mon cas. Je voulais m'autoproclamer et j'étais très loin d'être sanctifié, être comme on devrait être pour servir le Seigneur. Il faut toujours reconnaître la vérité, être assez humble de reconnaître qu'on était mauvais, perdu. Et cela donne des prophètes impurs, vous avez compris, des prophètes qui sont semblables à eux-mêmes. Donc le mot séraphin est le pluriel de saraph en hébreu, ce qui signifie être embrasé, brûlé, faire disparaître par le feu. Il rayonnait comme le feu, d'un éclat symbolisant la cour royale dans le ciel. Oui, chers amis, c'est important de connaître toutes ces choses. Nous avons ensuite le ministère des anges relatif à Christ. Jusqu'ici, nous avons surtout vu leur ministère au service de Dieu et de son trône. Mais les anges ont aussi reçu la mission de servir Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux avait une grande compréhension de ce merveilleux ministère. Lisez le premier chapitre et maintenant, regardons-le un peu de plus près. Premièrement, notez Hébreux, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 6. Là, il est dit, « Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que eux, car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi, je t'ai aujourd'hui engendré, et encore, moi, je lui serai pour père, et il me sera pour fils. » Et encore, quand il introduisit le premier-né dans le monde habité, il dit, « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Donc, d'après le psaume chapitre 8, verset 5, nous voyons que l'homme a été fait un peu inférieur aux anges. Dans ce verset hébreu, chapitre 1, verset 4, nous réalisons que le Fils de Dieu est devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que eux, car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi je t'ai engendré aujourd'hui ». Les anges ont eu pour mission d'assister à la naissance de l'enfant Christ dans cette vieille, on peut dire plutôt dans la veille du premier Noël. C'était le premier Noël. C'était là quand le ciel au-dessus de Bethléem fait se retentir la louange des myriades. Il est dit des myriades et des milliers de milliers d'anges. Apocalypse chapitre 5. Ces anges, ces milliers de myriades, ont quitté le ciel pour s'élancer parmi les étoiles en chantant la première annonce de Noël. Ils ont chanté « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Saint Luc chapitre 2 verset 14. Donc non seulement ils étaient présents, tous ces anges, à la naissance de Jésus, mais ils le servirent tout au long de son ministère terrestre. Deuxièmement, l'ange du Seigneur protégea Jésus-Christ de la colère jalouse du fameux Hérode en avertissant Joseph afin que celui-ci emmène l'enfant et sa mère en Égypte. Saint Matthieu, chapitre 2, verset 13. Troisièmement, quand Hérode mourut, l'ange réapparut dans un songe, disant à Joseph de retourner en Israël, car ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Saint Matthieu, chapitre 2, verset 20. Je suis sûr que lorsqu'il était petit, Jésus entendit sa mère et Joseph parler de ses expériences, ce qui a dû lui faire une très forte impression. Quatrièmement, après que Jésus a jeûné, il a jeûné pendant 40 jours dans le désert et que Satan l'a tenté sans succès, les anges sont venus pour le servir. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 11. Cinquièmement, lorsque Jésus priait sur le mont des Oliviers, la veille de sa crucifixion, il entra dans une grande angoisse et son âme fut dans un grand combat. Au moment le plus dur, il priait toutefois, que ne ce soit pas ma volonté, mais uniquement la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saint Luc, chapitre 22, verset 43. Sixièmement, plus tard, lorsque le gardien du temple est venu pour l'arrêter, l'apôtre Pierre, dans une grande agitation, parce qu'il était très prompt, il agissait d'abord et réfléchissait après, comme je faisais également quand j'étais plus jeune. Il tira son épée et coupa l'oreille d'un des esclaves du souverain sacrificateur, et Jésus reprit Pierre en lui disant « Remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. » « Penses-tu que je ne puisse pas, maintenant si je le voulais, prier mon Père, et il me fournira plus de 12 légions d'anges. Saint Matthieu, chapitre 26, versets 52 et 53. Au temps des Romains, une légion était le principal corps de troupes de l'armée, ayant environ, écoutez bien, 6000 fantassins et des cavaliers. Jésus-Christ savait que le ciel tout entier se tenait prêt à intervenir selon son moindre désir. Septièmement, des anges étaient présents à la résurrection de Christ. L'un d'eux a roulé la pierre du tombeau et s'assit dessus. Son aspect était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en avaient, eh bien les gardiens tremblaient tellement qu'ils étaient effrayés et ils sont devenus comme morts. Saint Matthieu, chapitre 28, versets 3 à 4. Mais ce même ange dit aux humbles femmes qui sont venues à l'aube pour embaumer son corps, « N'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait, et allez promptement et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Verset 6 et le verset 7 de Saint Matthieu, chapitre 28. Du fait qu'il s'agissait d'un ange puissant qui annonçait quelque chose de particulièrement important et qu'il descendait du ciel, selon le verset 2, pour apporter le message, je crois qu'il s'agissait du grand ange messager, l'archange Gabriel, qui a été très impliqué dès le début dans la vie terrestre de Jésus-Christ. Huitièmement, ce matin-là, Marie-Madeleine se tenait près du sépulcre dehors et elle pleurait. Comme elle pleurait donc, elle se baissa dans le sépulcre et elle voit deux anges vêtus de blanc assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Saint Jean, chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 13. Lorsque elle leur en donna la raison, ils ne lui expliquèrent pas la résurrection, comme ce fut le cas pour les autres femmes, car ils savaient que Jésus se trouvait encore dans le jardin et qu'il la réconforterait lui-même. Les anges font et ils disent uniquement ce que leur a ordonné le Père. Neuvièmement, enfin, au jour de l'Ascension, après que Jésus a donné ses ordres en disant « Allez dans tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Saint Marc, chapitre 16, verset 15. Et de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance d'en haut. Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Car le Saint-Esprit les rendrait capables d'être des témoins merveilleux, très puissants, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il fut donc élevé dans le ciel et une nuée l'emporta devant leurs yeux. Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se tenaient là à côté d'eux, qui aussi dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel ?» Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Actes chapitre 1 verset 10 et 11. Donc ces deux hommes pouvaient être soit des anges, soit des saints dans la gloire tels que Moïse et Élie, qui lui apparurent sur le mont de la transfiguration. De toute manière, il s'agissait de créatures célestes n'ayant pas des corps humains. Et dixièmement, cela termine les ministères des anges au cours de la vie terrestre de Jésus. Mais lorsque il reviendra sur terre, les anges viendront avec lui. Jésus lui-même a dit, « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. » Saint Matthieu 16, verset 27. Et puis notez, Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 et 32. Là, il est dit, « Or quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui. Alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. » Saint Marc, chapitre 13, versets 26 et 27, nous dit, « Et alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Et alors, il enverra ses anges et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Lorsque il reviendra, non seulement sera-t-il accompagné par les anges, nous l'avons compris, mais par des armées de saints revêtus de fin lin qui le suivront sur des chevaux blancs, selon Apocalypse chapitre 19, verset 14, et Jude, verset 14. Toute la vie de Jésus fut accompagnée par le ministère des anges. Et cela étant, il est normal que nous nous attendions à ce qu'il serve aussi ses disciples, car nous sommes quoi ? Nous sommes co-héritiers avec lui des promesses de Dieu. Si Jésus faisait appel à leur aide et à leur soutien, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'eux ? Ensuite, nous avons le ministère des anges parmi les hommes. Il nous est montré très clairement dans Hébreux, au chapitre 1, verset 14, que le Père a mandaté les anges à notre service. Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut ? Le mot « servir » est « oikronia » en grec, ce qui signifie « travail pratique et assistance ». L'amour rempli de compassion y est impliqué, et le mot diacre y est apparenté. Les anges sont donc nos diacres célestes, ayant reçu l'ordre de nous servir avec beaucoup d'amour et avec compréhension. Du fait que les anges communiquent les uns avec les autres, l'un d'eux peut rapporter nos besoins à un autre. Notre diacre personnel, c'est l'ange gardien qui est auprès de nous depuis notre naissance. Ils savent tout de nous. nos qualités, nos péchés et nos faiblesses, nos hérédités, notre environnement, nos talents et nos vocations venues de Dieu, ce qui nous plaît et ce qui nous déplaît. Je crois que parfois nous ressemblons à nos anges. Quoique je n'ai jamais vu le mien, d'autres l'ont vu. Ils m'ont dit que mon ange est joyeux et qu'il aime l'aventure. Il en a bien besoin pour vivre avec moi. Certains m'ont dit qu'il y a une nette ressemblance entre mon ange et moi. Et je pense que si cette ressemblance existe entre les anges et leurs anges, alors il se peut qu'on ait cru voir une personne, alors qu'il s'agissait peut-être que de son ange. Rassemblons-nous, ou plutôt ressemblons-nous, parfois, à nos anges gardiens. Va savoir. Lorsque l'apôtre Pierre était en prison et que l'Église primitive priait de nuit pour lui, toute la nuit, parce qu'il était condamné à mourir le lendemain, eh bien l'ange du Seigneur le délivra, oui, et il l'a fait sortir de prison. Lorsqu'il arriva au lieu où se tenait la réunion de prière, les chrétiens ont cru qu'ils voyaient son ange. Et par là, nous voyons qu'à cette époque déjà, les gens croyaient qu'il y avait une ressemblance entre une personne et son ange gardien. Actes chapitre 12, verset 15. Ça, évidemment, n'engage que la personne qui a écrit cela. Mais pourquoi pas? Un pasteur et son épouse m'ont raconté un rêve dans lequel ils se voyaient délivrant quelqu'un d'un mauvais esprit. Et chose très extraordinaire, le mauvais esprit ressemblait tout à fait à la personne qui venait d'en être délivrée. Tous les deux, le pasteur et son épouse, avaient fait le même rêve. Hébreux chapitre 1, verset 7 nous dit: et quant aux anges, il dit, qui fait ces anges des esprits et ses ministres une flamme de feu? Alors que nous collaborons avec le grand ministère des anges en ces temps de la fin, oui, nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce, on le voit tout autour de nous, avec tout ce qui se passe, c'est horrible. C'est pire que bientôt Sodome et Gomorre. Nous deviendrons, nous aussi, ces ministres qui seront comme une flamme de feu. Nous serons ses serviteurs. Ce n'est que en étant remplis du feu du Saint-Esprit et réellement baptisés du Saint-Esprit et de feu, selon Matthieu, chapitre 3, verset 11, que nous pouvons être ses ministres enflammés. Il plaît donc à Dieu de toucher les lèvres de ceux qu'il a appelés de charbon ardent, venant de l'autel céleste, afin que nous soyons ses vases purs, propres et sanctifiés qu'il peut utiliser en ces temps de la fin. Combien les anges doivent être attristés en voyant les vies impures et les vases souillés de certains dans le ministère dont Dieu doit se servir parce qu'il n'y en a pas assez, qui, comme Ésaïe, ont l'honnêteté de s'écrier « Malheur à moi, car je suis perdu, et moi j'étais également perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, je l'étais également ». Et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Dans son immense humilité, Jésus-Christ était prêt à être fait un peu moindre que les anges lorsque il a pris la semence d'Abraham. Hébreux, chapitre 2, verset 9 et le verset 16. Il a fait cela afin de pouvoir souffrir la mort pour tous les hommes, pour tous les pécheurs. Si les anges ont continué à servir Jésus dans l'amour pendant les 33 années qu'il était sur la terre, revêtu d'un corps humain et moindre que eux, c'est ce que nous venons de voir, eh bien, nous pouvons nous attendre à ce qu'ils fassent pour nous ce qu'ils ont fait pour notre frère Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 11. Mais à cause de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, nous recevons des corps de résurrection, des corps nouveaux, des corps glorieux qui nous rendent semblables aux anges, car ces corps seront pareils aux leurs. Donc Jésus en parla. Lorsque on lui posa une question sur les liens matrimoniaux dans le ciel, il dit « Les fils de ce siècle se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront estimés dignes d'avoir part à ce siècle-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marieront pas ni ne sont donnés en mariage, car aussi ils ne peuvent plus mourir, car ils sont semblables aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Saint Luc, chapitre 20, versets 34 à 36. Cela ne sera que lorsque la gloire de Dieu nous reviendra alors que nous sommes à égalité avec les anges au sens physique du terme, car alors nous ne souffrirons plus ni la douleur, ni le chagrin, ni la mort, mais nous serons immortels comme les anges. Nous serons co-héritiers avec Jésus-Christ. Je répète, nous serons co-héritiers avec Jésus-Christ et l'une de nos futures responsabilités sera même, paraît-il, de juger les anges. Je ne comprends pas bien cela aujourd'hui, mais c'est écrit. Ne savez-vous pas, est-il dit, que nous jugerons les anges, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Il n'est pas permis aux anges de juger. Cela est réservé à la divinité et aussi à nous-mêmes, comme nous venons de le dire. Dans 2 Pierre, chapitre 2, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il est dit « Tandis que les anges plus grands en force et en puissance ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur, jamais. » Jude, verset 9, confirme cette vérité concernant le prince Michel, donc l'archange Michel, et ses rapports avec le diable. Mais l'archange Michel, quand discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse et n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit tout de même que le Seigneur te censure. Néanmoins, les anges témoins du jugement seront présents en ce jour terrible. Notez Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31, et continuez de noter Saint Marc, chapitre 8, verset 38, Saint Luc, chapitre 9, verset 26. Les anges ne régneront pas dans le monde à venir, selon Hébreux, chapitre 2, verset 5. Pour terminer cette étude, disons, je pense que vous pouvez renoter, je l'ai dit, Hébreux, chapitre 2, verset 5. Alors disons que, car ce n'est point aux anges, est-il dit, qu'il a assujetti le monde habité à venir. Vous l'avez compris. Il ne l'a point dit aux anges. Non, car Dieu a créé l'homme pour que lui règne sur ce monde et sur toutes les grandes œuvres créées par lui. Vous l'avez bien compris, quand la Bible parle de l'homme, la femme est toujours comprise avec. Je l'ajoute pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Hébreux chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8 nous dit « Quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Ou « Qu'est-ce que le fils de l'homme que tu visites ?» Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont assujetties. Quoique nous ne nous voyons pas encore comme étant revêtus de cette puissance et de cette autorité, nous savons que cela a été décrété et que nous régnerons bel et bien avec lui, avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec lequel nous sommes cohéritiers. Notez Apocalypse chapitre 2 verset 26, chapitre 3 verset 21, toujours Apocalypse chapitre 5 verset 10 et le verset 20. Non, le chapitre 20 verset 6. Je répète Apocalypse 2 verset 26. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Et le chapitre 22, verset 5. Pendant le millénium à venir, les armées célestes pourront nous servir comme cela avait été prévu. Notre péché et notre incrédulité ont fait obstacle à tout ce qu'ils auraient pu être pour nous dans le royaume. Au lieu d'être occupés à nous aider à régner, ils passent leur temps à nous empêcher de pécher, à nous protéger contre nos erreurs et à essayer de nous sortir de notre rébellion et de notre entêtement. Et il y a beaucoup à faire, serait-ce qu'avec moi. Alors, que dire avec des qui ont une vie encore plus tourmentée. Mais lorsque nous deviendrons comme Christ et que nous serons parfaitement et en toutes choses soumis à la volonté de Dieu, alors les anges pourront faire équipe avec nous comme ce fut le cas avec les grands saints tels que le prophète Daniel, le grand Moïse, Ézéchiel, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, qui ont reçu la grande révélation, surtout l'apôtre Jean, qui a reçu la grande révélation de la main même d'un ange. Et nous serons pour Dieu cette puissance qu'aucun démon en enfer, aucun méchant de ce monde ne pourront vaincre. Le monde n'a pas encore eu à affronter cette terrible armée, mais elle sera triomphante, l'armée de Christ. Puisse donc, chers amis, ce fameux jour, et aussi ce terrible jour, être proche. Gloire soit rendue à Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant prier. Donc, préparons-nous dans l'esprit, dans notre âme, dans tout notre être, a terminé cette étude importante par la prière. Yahvé l'Éternel, tu as dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, elle a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ le Messie. Ces gens disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Oui, il est venu pour annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et Jésus lui répond, je le suis moi-même qui te parle maintenant. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans ce monde afin que nous vivions par lui. Gloire à Dieu le Père et gloire soit rendue à son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers amis, Dieu voulant, demain matin, la suite de cette série. Et chers amis, si vous ne comprenez pas toujours tout d'un seul coup concernant une de ces études, il est facile pour ceux qui ont Internet, moi je ne l'ai pas, je fais seulement le travail, je suis que la voix qui parle, c'est la voix, c'est tout. Je désire être anonyme. Je désire de rester à l'arrière-plan, car qui suis-je par rapport au Seigneur et à tous ceux qui sont ses disciples, qui ont étudié pendant des années sa sainte parole, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, pas dans le sens professionnel. Alors, simplement, réécoutez, si vous le pouvez, un de ces messages, une de ces études. À bientôt donc, à demain matin, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.